Radio Classique. Et votre journée devient plus belle.
Bon réveil, bonne journée sur Radio Classique. Nous sommes le jeudi 14 mai, il est 7h30.
La matinale de Radio Classique avec Guillaume Durand.
Voilà, premier arrivé. D'abord, bonjour à vous tous et bienvenue sur l'antenne de Radio Classique. Premier servi, un laboratoire français, Sanofi, promet de livrer en priorité son vaccin contre le coronavirus à cause, évidemment, d'investissements qui furent les premiers aux États-Unis, mon cher Marc.
Ah oui, petite phrase hier du patron de Sanofi dans la presse américaine. En pleine course mondiale au traitement, Paul Hudson estime que le gouvernement américain a droit aux plus grosses précommandes en cas de découverte d'un vaccin, en raison notamment de sa prise de risque dans les travaux de recherche comme un appel du pied aux pays européens. Bonjour Augustin Lefebvre.
Bonjour Marc Bourreau, bonjour à tous.
Les États-Unis devant le reste du monde, ça fait grincer des dents. Le géant pharmaceutique a tenté hier soir de temporiser.
Oui, dans un communiqué, le groupe explique qu'il est pleinement mobilisé pour qu'un vaccin soit disponible pour tous rapidement. Une réponse à ceux, notamment dans l'opposition à gauche, qui ont été choqués par les propos du patron de Sanofi. Des propos déjà tenus fin avril dans la presse française. Les États-Unis auront la priorité. Dans cette nouvelle interview, Paul Hudson précise qu'il s'agit seulement d'une affaire de quelques semaines, voire de quelques jours d'avance. Une avance justifiée par l'accord passé dès la mi-février avec une agence du gouvernement américain pour développer un vaccin. L'entreprise précise qu'elle est en discussion avec la Commission européenne pour trouver un accord similaire. Et d'après une information de l'agence Reuters, la Commission serait prête à mobiliser plus de 2 milliards d'euros pour faciliter la fabrication d'un vaccin. Cette fabrication à grande échelle qui est encore lointaine. Et au-delà de Sanofi, une centaine de projets sont actuellement à l'étude dans le monde.
Merci Augustin Lefebvre. Les États-Unis qui restent en tête ce matin des pays les plus touchés dans le monde. 1800 morts supplémentaires, 84 000 décès au total. Enfin, sévère mise en garde de l'OMS cette nuit. Le virus pourrait ne jamais disparaître. L'humanité devra sans doute apprendre à vivre avec, considère l'Organisation mondiale de la santé.
Retour en France, mon cher Marc. La crise du coronavirus n'est pas seulement sanitaire. Elle est aussi sociale et économique. Et nous allons en parler donc tout à l'heure, vous le savez, Guylaine Télémère, Nicolas Bouzou. Ils connaissent bien les problèmes économiques et avec Raymond Soubi.
Et vous avez peut-être, Guillaume, encore ces images en tête, des files interminables devant les points de distribution d'aide alimentaire depuis le début du confinement. Eh bien, ces files ne se vident pas. Au contraire, bon nombre de personnes ont basculé dans la précarité. Près d'1,5 million de bénéficiaires en plus depuis le mois de mars au Secours Populaire. Et les profils sont extrêmement variés, d'après son secrétaire national, Jean Stellitano.
On a vu arriver des personnes qui se sont présentées à nous pour dire que voilà, on a faim, on a besoin d'aide et effectivement on s'est retrouvé à accueillir ces actifs qui vivaient de travaux saisonniers. Tous les gens du spectacle qui vivent de la culture, des petits artisans, des commerçants, des petits entrepreneurs. On a des exemples mais très durs de ces étudiants qui vont pas par fierté demander de l'aide et qui se laissent dépérir. Et heureusement on a des voisins qui nous les signalent, on va auprès d'eux. On a des situations de très grande précarité, de très grande détresse de la part de ces jeunes qu'on voit franchir effectivement massivement de nos antennes.
Jean Stellitano, le secrétaire national du Secours Populaire. C'était une promesse d'Emmanuel Macron. Le personnel soignant recevra bien une prime, peut-être en mai, peut-être en juin. Le décret n'a pas encore été signé. Il ira jusqu'à 1500 euros dans les 40 départements les plus touchés. Une prime et une médaille de l'engagement aussi. Le gouvernement veut rendre hommage au secteur le 14 juillet prochain.
Cela étant dit, c'est ce matin dans la presse, je vous le disais tout à l'heure dans les titres, une véritable polémique car les gens se demandent si la médaille ne va pas arriver avant la prime et à la réforme de l'hôpital. Quant au bilan de l'épidémie, eh bien la barre des 27 000 victimes a été franchie.
83 décès, Guillaume, effectivement, l'espace de 24 heures. Et puis ce chiffre, ce matin, celui d'une étude publiée dans la revue Science, moins de 5% de la population française aurait été contaminée, à peine 10% dans les zones les plus touchées. On est bien loin des 65% nécessaires pour une immunité collective.
Et puis ce matin, le gouvernement sort les perfusions. La perfusion, on va en parler avec Dimitri Pavlenko et avec vous tout de suite, pour sauver ce qui est une catastrophe à venir, le tourisme.
Un plan Marshall de près d'1,5 milliard d'euros pour soutenir le secteur qui représente 2 millions d'emplois, plus de 7% du PIB. Depuis mars, les finances sont dans le rouge et l'incertitude plane pour l'été prochain. Quid également des consignes sanitaires? Faudra-t-il sacrifier des attractions, restreindre certains accès? Daniel Lavergne, gérant d'un camping à Puységur en Haute-Garonne, tente déjà de trouver des solutions.
Pour les campeurs, on a des douches et des sanitaires communs. Je pense qu'il faudra qu'ils portent des gants parce que nous, on ne peut pas passer faire le ménage au sanitaire après chaque client qui va prendre une douche ou qui va aller aux toilettes. Concernant le snack, on ne va pas employer des gestes écologiques parce que ça sera que du jetable. On a déjà pensé à faire des repas que l'on fait habituellement en vente à emporter et les gens viendront se servir sur le bar et iront manger ou chez eux ou sur les tables qui sont sur la terrasse.
Propos recueillis par Charles Bonner. Lui en sait un peu plus, en revanche, sur les consignes sanitaires. Dans les mois à venir, le secteur du transport aérien est l'un des plus sévèrement touchés par la crise entre fermeture des frontières et des aéroports. Le gouvernement a dicté un certain nombre de principes. Rémi Vallès, l'idée générale, c'est qu'on ne pourra plus prendre l'avion comme avant.
Oui, et c'est un décret publié par Matignon qui vient fixer ces nouvelles règles. Tout d'abord, comme dans les métros, tramways et bus, le port du masque sera obligatoire pour les personnes de plus de 11 ans, aussi bien dans les aéroports qu'à bord des avions. Les passagers devront également être munis d'une attestation, une déclaration sur l'honneur d'absence de symptômes du Covid-19. Certaines compagnies tentent elles aussi d'apporter des réponses sanitaires. Air France va ainsi prendre la température de ses passagers pendant l'embarquement avec un thermomètre sans contact. S'il dépasse 38 degrés, impossible de monter à bord. Dans les appareils qui seront systématiquement désinfectés après chaque vol, vous ne trouverez par ailleurs plus de vente de produits en duty free, ni de repas et de boissons pour les vols courts. Enfin, concernant la distanciation sociale, très compliquée à faire respecter dans un environnement si confiné, le gouvernement a tranché. La règle d'un mètre entre les voyageurs ne s'appliquera pas à l'aérien. Il n'y aura donc pas de place condamnée. C'était une demande des compagnies qui affirment qu'une politique du siège vide se traduirait par une hausse moyenne du prix des billets d'environ 50%.
Des précisions de Rémi Vallès.
À l'étranger, 10 jours après le début d'un déconfinement progressif, le Liban fait marche arrière.
Le pays a enregistré jusqu'ici près de 900 malades, 26 décès, mais le bilan pourrait de nouveau grimper. Près de 110 nouvelles contaminations ont été enregistrées depuis dimanche. Résultat, les restaurants, les commerces sont priés de baisser le rideau depuis hier. Les habitants invités à se cloîtrer chez eux pour 4 jours. Et ce n'est pas vraiment une surprise pour Adam Outa. Ce trentenaire habite dans la banlieue de Beyrouth. Il répond à Baptiste Gabory.
Les gens ont commencé à oublier le virus. Il y avait quelques jours, on n'avait pas de cas du tout. Et donc, tous les gens ont commencé à vivre leur vie normale, quoi. La situation économique est douloureuse. Donc, tous les gens ont recommencé leur boulot. Mais quand on a vu que les nombres ont commencé à augmenter soudainement, ça veut dire qu'on a passé de 2-3 cas par jour à 11, après 33. Franchement, les gens étaient, ils ont eu peur. Ils ont accepté le fait qu'on va être pendant 4 jours dans ce confinement.
Et reconfinement partiel aussi en Chine. Depuis hier soir, la vaste agglomération de Jilin, frontalière de la Corée du Nord, demande à ses habitants de rester chez eux après de nouveaux cas de coronavirus.
Il est 7h38, merci mon cher Marc. On se retrouve dans une heure précisément pour les titres à 8h30. Nous allons parler de la situation sociale avec Raymond Soubi, qui connaît bien ces problèmes-là. Il est à la tête d'une société qui travaille sur ces sujets, Alixio, toute la journée. Il a conseillé, vous le savez, Nicolas Sarkozy. Et puis nous retrouvons évidemment les spécialistes derrière.